Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, Christina Silvero pour vous présenter cette édition d'Escale consacrée au moment charnière que traverse la République démocratique du Congo suite à la première transition pacifique du pouvoir que le pays a connue. Nous recevons la représentante spéciale de l'ONU pour la RDC, Leila Zerougui, que nous avons rencontrée en marge du débat général de l'Assemblée générale des Nations Unies fin septembre. Elle revient sur le message positif qu'elle est venue apporter.
Je suis porteuse effectivement d'un message positif. Comme vous le savez, la RDC était au cœur de beaucoup de tensions depuis mon arrivée l'année dernière, en 2018, mais bien avant, avec mon prédécesseur. C'était toutes les tensions liées aux élections et à toutes les incertitudes que ces élections donnaient l'impression de pouvoir générer. Ce n'est pas le cas. Les élections ont eu lieu, ils étaient pacifiques. Nous avons eu, pour la première fois depuis l'histoire de la RDC, c'est-à-dire depuis son indépendance en 1960, nous avons eu un transfert de pouvoir pacifique à travers les élections. Nous avons eu un président qui a quitté le pouvoir à l'âge de 46 ans, à travers les élections, et celui qui représentait avec son parti le fils du grand militant opposant historique de la RDC qui prend le pouvoir. Ce n'est pas rien. Les Congolais l'ont montré. Ils n'ont pas encore vu au départ les acquis, ce qui va changer, mais ils étaient contents parce que c'est quelque chose de nouveau qu'ils ont vécu. Depuis longtemps, on arrive au pouvoir par les coups d'État, par les assassinats. C'est ça la réalité. Et aujourd'hui, on voit, lorsque j'ai assisté par exemple à la cérémonie de passation de pouvoir et que vous voyez le président sortant avec le président qui rentre, ceci est extraordinaire dans la mesure où c'est pour la première fois où le peuple voit un transfert pacifique de pouvoir. Donc bien évidemment, ce message, je le porte. Et il faut capitaliser, il faut s'assurer que ce qui vient de se passer, ce n'est pas un accident de l'histoire, mais c'est une réalité de progrès auquel les Nations Unies ont contribué. Ce n'est pas par accident que ceci est arrivé, c'est arrivé parce qu'il y a maturation, parce qu'il y a eu des efforts, parce qu'il y a eu aussi cette volonté des Congolais qui ont eu un espace de pouvoir imposer leur positionnement et de dire que nous voulons un changement au plus haut sommet de l'État. Ça s'est fait. Maintenant, il faut aller au-delà de ça et travailler sur la consolidation des acquis et construire pour répondre aux attentes et aux aspirations du peuple congolais.
Alors, à la tribune de l'Assemblée générale, le président Tshisekedi a dit que son pays aspire à l'émergence et il a dit que la RDC avait besoin d'une MONUSCO forte, bien équipée, avec un mandat adapté, évoquant la brigade d'intervention rapide qu'a mis en déroute l'UM23 il y a quelques années. À quel MONUSCO peut-on s'attendre et avec quel rôle face aux divers groupes armés? Quel MONUSCO souhaiteriez-vous voir?
D'abord, aujourd'hui, nous attendons les conclusions de la Strategic Review, la revue stratégique, sur les perspectives du changement de mandat qui aura lieu, comme vous le savez, en décembre. La revue stratégique sera présentée au Conseil par un expert indépendant, M. Youssef Mahmoud, en octobre, pour justement proposer la valeur ajoutée d'une mission dont le mandat sera renouvelé dans ce contexte nouveau. Donc pour moi, d'abord, ce qui est fondamental, essentiel, c'est de consolider la paix. C'est de travailler sur le renforcement des fonctions régaliennes de l'État. Une mission de maintien de la paix, ce n'est pas seulement une force armée. Une mission de maintien de la paix, c'est aussi tout le travail que nous faisons pour renforcer les fonctions régaliennes de l'État. Quand je dis fonctions régaliennes, je parle de la professionnalisation de l'armée, je parle de la police, je parle du renforcement de la justice, je parle de toute la médiation qu'on fait entre partenaires qui sont en train de s'inscrire dans un processus politique nouveau où il y a une place pour l'opposition, où il y a une majorité, il y a une coalition qui gouverne. Aider le gouvernement à prendre les décisions qui vont renforcer cette perspective, travailler avec le gouvernement sur les groupes armés, pour moi, beaucoup doit être fait pour identifier les causes profondes qui amènent des gens à prendre les armes dans leur pays. Est-ce que c'est des questions de réconciliation communautaire? Est-ce que c'est des problèmes d'accès à la terre? Est-ce que c'est des problèmes d'injustice? D'abord, régler les problèmes internes qui font qu'on doit ramener le maximum de la population du côté des autorités et isoler et réduire l'influence des groupes armés. Bien sûr, il faut la pression militaire, bien sûr, il faut les amener à déposer les armes, il faut les amener à cesser les violations qu'ils commettent et la déstabilisation, mais il y a aussi tout le travail en amont qui doit être fait, et c'est ça que nous essayons de faire. Si, par exemple, il n'y a pas eu un travail de fond pour appuyer justement ces élections, pour qu'elles soient pacifiques, pour qu'elles se passent dans les meilleures conditions, peut-être qu'on ne serait pas en train de parler aujourd'hui de ce qu'on est en train d'essayer de faire. Donc oui, je comprends, le gouvernement souhaite se débarrasser de la menace des groupes armés. Nous travaillons avec eux, nous avons un mandat d'appui au FRDC, comme vous le savez, pour mener des opérations conjointes, pour appuyer les opérations unilatérales des FARDC dans le cadre du mandat que le Conseil va nous donner. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est aussi d'identifier les causes profondes. Vous savez, si vous prenez les provinces où nous sommes aujourd'hui déployés, nous sommes déployés dans 6 provinces sur 26. Donc il y a une vingtaine de provinces où les FARDC sont en charge, où le gouvernement est en charge. Dans ces 6 provinces où nous sommes, il y a déjà des provinces où il y a des groupes armés actifs et des provinces où il y a des groupes armés qui demandent la démobilisation qu'il faut réintégrer dans les communautés sur lesquelles il faut travailler. Donc il y a beaucoup de choses. J'espère que le mandat de la mission ne sera pas trop large pour ne pas se concentrer sur ce qu'il faut, mais j'espère que nous aurons aussi les espaces pour travailler sur les besoins réels pour construire une paix durable.
Autre grand défi et priorité pour la RDC, c'est la lutte contre Ebola. Alors, le virus continue à sévir dans l'est du pays. Une nouvelle stratégie a été mise en place avec le déplacement d'un centre de coordination au cœur de la zone affectée. On a annoncé que des nouveaux médicaments allaient être administrés. Où en sommes-nous dans la riposte au virus Ebola?
Comme vous le savez, la riposte au virus Ebola, ce n'est pas le mandat de la mission. C'est le mandat de l'Organisation mondiale de la santé. Mais à cause du fait que l'Ebola est sorti dans une zone de conflit, dans une zone où il y a des groupes armés. Donc nous avons un mandat, une responsabilité pour permettre à ce que la riposte puisse se faire. Parce qu'elle était au cœur des tensions. Il y a eu des attaques contre les gens qui procédaient à la riposte. Manipulation, utilisation de groupes armés, contexte d'élection, mais aussi souffrance et incompréhension et inquiétude de populations qui ne comprennent pas pourquoi ils ont l'habitude de mourir de maladie, pourquoi cette fois on est préoccupé. Donc ça crée des confusions. Donc le travail de la mission, c'était de créer un espace de stabilisation pour permettre à la riposte de se faire. Les Nations Unies se sont mobilisées, les partenaires aussi, parce que comme vous le savez, cette zone où l'Ebola s'est déclenchée, c'est une zone frontalière avec l'Ouganda, proche du Rwanda. Les risques d'une zone de conflit, tout ça a amené la mission à s'impliquer directement à travers le renforcement de nos capacités pour apporter l'appui et le soutien à la riposte. Bien évidemment, ce sont l'UNICEF, le HCR, l'Organisation mondiale pour la santé qui travaillent sur les soins médicaux et comment les opérer et quels médicaments utiliser. Ce que nous considérons comme positif, c'est que pour comparer avec ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest en 2014, c'est que nous avons un vaccin qui fonctionne, nous avons des traitements qui ont donné des résultats. Nous avons pu guérir sur les 3000 affectés au moins 1000 personnes. Donc c'est pas rien. C'est vrai qu'il y a eu plus de 2000 morts, mais c'est vrai aussi qu'il y a 1000 qui ont été soignés. Nous avons vacciné des centaines de milliers de personnes. C'est grâce justement à cette opportunité d'avoir des médicaments, des vaccins, que nous pensons que nous allons éradiquer cette maladie. Elle continue de sévir parce que nous sommes dans une zone peuplée, population qui se déplace à cause de la guerre, des spoilers qui sont dans la zone et qui commettent des exactions. Mais je pense que nous ne sommes pas dans la crise qui nous dépasse. On n'a pas vu la maladie sortir de à peu près 50 à 55 km carrés dans un pays de 2 millions de km carrés. On n'a pas eu des cas qui ont ravagé d'autres pays. À chaque fois qu'il y a eu un cas qui a traversé, parce qu'on était préparé, parce qu'on a préparé à l'intérieur et sur les frontières, à la sortie de la zone affectée, nous avons pu identifier les personnes malades, les soigner ou soigner ceux qu'ils ont affectés. Et donc, dans tout ça, moi je dis qu'il y a de l'espoir. Ce que nous voulons maintenant, le message que nous envoyons au monde et ce que nous allons essayer de faire, c'est une conférence sur le renforcement du système sanitaire de la RDC au niveau local et au niveau national, parce qu'il y aura encore une épidémie. Vous le savez, l'épidémie, elle vient parce que des gens vivent dans la forêt, mangent de la viande sauvage et donc ils sont affectés à travers les animaux. Donc la meilleure réponse, c'est de pouvoir renforcer les capacités du système sanitaire et de pouvoir donc mettre à disposition les vaccins, les traitements. Et la prochaine fois, on n'aura pas besoin de nous mobiliser à travers le monde. C'est les Congolais qui prendront en charge si jamais une telle épidémie se déclenche de nouveau.
Une dernière question, qu'espérez-vous voir découler au cours de la prochaine année? C'est-à-dire, si on se retrouve l'année prochaine, quel message espérez-vous porter? Quelle RDC espérez-vous avoir?
J'aimerais revenir l'année prochaine et dire nous avons réussi à réintégrer tous les groupes armés qui ont déposé les armes ou qui sont sur la voie de déposer les armes dans les Kasaï, dans le Tanganyika, au Ituri et même dans les Kivu. J'espère avoir le soutien. Nous travaillons avec la Banque mondiale, avec le Peace Building Fund, nous travaillons avec d'autres partenaires pour ne pas rater cette opportunité de tourner la page dans au moins 3 provinces, de dire l'année prochaine, la MONUSCO, elle est présente uniquement dans 3 ou dans 2 provinces. C'est ça le succès. Ça veut dire qu'on a réussi à capitaliser sur cette volonté d'une partie des groupes armés des Congolais de tourner la page du conflit. Si je peux dire ça, c'est déjà un succès. Si je vois les promesses que le président de la République a fait au peuple congolais, les soins de base gratuits, l'éducation au niveau au moins primaire, gratuite, ils ont commencé à appliquer ça, de voir plus d'investisseurs qui viennent en RDC pour créer de l'emploi, de nous permettre, nous, en tant que mission de maintien de la paix, de nous retirer petit à petit pour laisser la place au développement, pour laisser la place aux investissements. Je ne dis pas que l'année prochaine, tout ça sera réglé, mais je dis si on est sur cette voie et si on avance avec cette perspective-là, je serais ravie de voir ces choses se réaliser pendant que j'ai eu cette chance et c'est la confiance du secrétaire général d'être à ce poste en RDC à cette époque.
Et c'est avec ces paroles d'espoir de Leïla Zerougui que se referme cette édition d'Escale, consacrée cette semaine au moment historique que vit la République démocratique du Congo. Escale, un magazine hebdomadaire de Nu Info. Présenté cette semaine par Christina Silvero, avec la collaboration de Namcho et de Carlos Macias. Vous pouvez retrouver ce magazine ainsi que notre journal sur notre page internet et nos comptes SoundCloud, Facebook et Twitter. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence. We'll be right back.